Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
À la une de l'actualité de la mi-journée, attaque de Karma dans le Nord. Une soixantaine de personnes ont perdu la vie. Le procureur près le tribunal de grande instance de Waiguia annonce l'ouverture d'une enquête et appelle à la dénonciation. Bonne nouvelle à Dassa, les cours au secondaire ont repris ce lundi. Trouver des solutions pour répondre aux besoins des populations en déficit céréalier, c'est à quoi réfléchit le ministère de l'Agriculture qui tient son premier CASEM ce lundi. Au Soudan, le pape François appelle à la fin des combats ainsi qu'à la reprise des pourparlers. Et puis l'imam Boubacar Nassouri, formateur en sciences islamiques, est notre invité du jour. Avec lui, on parle du rôle des leaders religieux, notamment musulmans, dans la promotion du vivre ensemble au Burkina. C'est la première réaction officielle après l'attaque de Karma dans le département de Barga, province du Yatenga, région du Nord. Le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Waiguia évoque une soixantaine de morts. Le 21 avril 2023, le commandant de la brigade de recherche de gendarmerie de Waiguia me rendait compte de ce que, dans le village de Karma, département de Barga, province du Yatenga, une soixantaine de personnes auraient été tuées par des personnes arborant des tenues de nos forces armées nationales, a indiqué le procureur dans un communiqué en vue d'élucider et interpeller toutes les personnes qui y sont impliquées. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête et lancé un appel à la dénonciation en mars 2020. Dans le même département de Barga, 43 personnes avaient été tuées dans l'attaque de plusieurs villages de la localité. Allons maintenant à Dassa, l'une des 10 communes de la province du Sangié où la situation sécuritaire tend à se normaliser depuis le retour du détachement militaire en mars 2023. Aujourd'hui, les cours du poste primaire reprennent après le primaire le 17 avril dernier. Leurs aînés du poste primaire reprennent donc ce lundi à Dassa, Abdoulkader Konaté.
Les lycéens et les collégiens de Dassa vont reprendre le chemin des classes ce lundi 24 avril 2023. Après une rencontre le jeudi dernier avec les acteurs du poste primaire et les forces de défense et de sécurité, les acteurs ont décidé de reprendre leurs activités pédagogiques une semaine après ceux du primaire. Depuis le 10 mars dernier, une base militaire est installée à Dassa pour répondre aux incursions terroristes dans cette commune. Cette présence des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie a rassuré les habitants qui reviennent dans leur commune, avait constaté Omega Media dans un reportage. Les efforts de sécurisation ont permis aux élèves du primaire de reprendre les cours le 17 avril. Les services administratifs et sociaux de la commune, comme la mairie, le dispensaire, la préfecture, fonctionnent à nouveau à Dassa. En décembre 2022, suite à des attaques terroristes qui ont causé de nombreux dégâts matériels et des pillages, la population de Dassa avait abandonné leur commune pour se réfugier à Kourougou, Réo, Didi et ailleurs. Le village de Do de la commune de Dassa a été plus meurtri avec au moins 14 personnes tuées.
Abdoulkader Konaté sur la reprise des cours au secondaire à Dassa. Écoutez Yacinthe Yamiogo, le directeur provincial du Sangié en charge du poste primaire.
Depuis le 13 avril passé, nous avons procédé à la réouverture des classes pour ce qui concerne les établissements de la ville de Dassa. Oui, administrativement, depuis le 13, les deux établissements de la place sont réouverts. Et donc, j'ai même conduit une mission là-bas le 20 avril passé pour naturellement voir la suite de l'année à donner. Donc, au cours de cette rencontre, étant donné que les élèves s'étaient réinscrits dans beaucoup d'établissements, soit de la province ou de la région ou même au plan national, il est convenu naturellement justement de communiquer, les recenser et ensuite on fera le point pour enfin décider de ce qu'on va faire pour eux. Comme je le disais, ils sont réinscrits, beaucoup sont allés se réinscrire dans d'autres établissements. Il faut recenser d'abord ceux qui vont revenir et puis voir la suite à donner. En tout cas, sur le plan sécuritaire, il n'y a plus de soucis à se faire. Nous avons même fait un tour causé avec le, aux manœuvres du détachement. Et véritablement, on était très satisfait au regard du maillage de sécurité qui a été fait là-bas. Et en tout cas, il n'y a pas de souci à se faire pour ce qui concerne la ville de Dassa. Et en tout cas, les activités, naturellement, peuvent être reprises sans souci sur le plan sécuritaire. Il n'y a pas de souci.
Sur le plan sécuritaire, il n'y a plus de soucis à se faire, selon Hyacinthe Yamyogo, le directeur provincial du Sangye en charge du poste primaire. Propos recueillis au téléphone par Moumouni Yaro. Comment répondre aux besoins des populations en difficulté ou en déficit céréalier? Une question au cœur du premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2023 du ministère en charge de l'agriculture qui se tient ce lundi 24 avril. Réunis dans la salle de conférence de Ouaga 2000, les acteurs de ce département devront réfléchir sur la part contributive des projets et programmes de ce secteur qui, on le sait, fait face à de nombreux défis. Abdulaziz Oulabou pour le compte-rendu.
Gouvernance des projets et programmes pour une réelle contribution à la réalisation des missions du ministère, solutions et perspectives, c'est sous ce thème que se tient la première session ordinaire du CACEM du ministère en charge de l'agriculture. L'une des missions essentielles étant la résorption du déficit alimentaire enregistré au cours de la campagne agricole 2022-2023. Un déficit qui a pour conséquence directe l'exposition de plus de 2 millions de personnes en situation de crise alimentaire au Burkina Faso. Une situation qui s'explique d'une part par une mauvaise pratique agricole à certains niveau et d'autre part par le déplacement massif des populations. Denis Ouédraogo, ministre en charge de l'agriculture.
Vous pouvez avoir par exemple du maïs qui fait 6 tonnes à l'hectare, mais lorsque les producteurs l'utilisent, ils sont en dessous de 6 tonnes, souvent 3 tonnes, 4 tonnes. Donc cela ne permet pas d'accroître significativement les productions. Mais il faut aussi noter les déplacements des populations. Dans certaines zones, les populations se sont déplacées, ils ont semé, mais n'ont pas pu récolter. Donc c'est la conjugaison de tous ces facteurs-là qui ont impacté négativement le niveau de la production.
Plusieurs actions sont prévues pour pallier à cela dès la campagne à venir, notamment l'intensification de l'appui et conseil aux producteurs. Mais en attendant, le plus urgent est d'apporter une assistance aux personnes en situation difficile et le premier responsable du département en est bien conscient. Denis Ouédraogo.
Nous allons conjuguer nos efforts avec la SONAGER, avec CONASUR qui relève du ministère de l'Action humanitaire, d'autres appuis comme le PAM et la FAO pour parvenir en tout cas à répondre aux besoins des populations en difficulté ou en déficit céréalier.
La disponibilisation des intrants agricoles est une des priorités de ce ministère. Un projet d'installation d'une usine de leur production est en étude et cela va certainement permettre aux producteurs de les avoir à moindre coût et surtout à temps, a indiqué le ministre en charge de l'agriculture.
Et toute la classe politique n'a pas été associée à l'audience avec le chef de l'État. C'est ce qu'a fait savoir Ablassé Ouédraogo, le coordonnateur de la composante autre parti politique, dans un communiqué en date du 20 avril et dont Omega Media a obtenu copie. Pour lui, en situation de crise, l'exclusion et la division sont contre-productives. On fait le point avec Yaya Diomandé.
Les partis politiques membres de la composante autre parti politique APP fustigent n'avoir pas été associés à la rencontre du mardi 18 avril entre le président de la transition et la classe politique. La coordination de la composante s'est démarquée dans un communiqué du 20 avril des conclusions de cette rencontre. À cette audience avec le chef de l'État, la délégation de partis politiques conduite par Edi Kombouyego, président du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, a assuré être allé soutenir et encourager le président de la transition dans la lutte engagée contre le terrorisme. Cette audience devrait, selon les APP, également traiter de la levée de la mesure de suspension des activités des partis politiques, puisque la Constitution et ses corollaires ont été depuis pleinement rétablis. Et la mobilisation générale décrétée le 13 avril dernier par le chef de l'État impose la contribution de tous les Burkinabés et que les acteurs politiques ne sauraient être en reste, ajoute la coordination menée par Ablassé Ouédraogo. Si les hommes politiques conduits par Edi Kombouyego n'ont pas évoqué la question du calendrier de la transition, les APP, à travers leur communiqué, réclament des informations particulièrement sur le calendrier électoral. Étant donné que les compromis dynamiques conclus par les autorités de la transition et confirmés par le président de la transition lui-même à l'aéroport de Ouagadougou le 4 octobre 2022 en recevant la mission de suivi de la CEDEAO, fixe la fin de la transition au 1er juillet 2024, rappelle-t-il dans le communiqué. tout en réaffirmant son soutien indéfectible et patriotique à la transition ainsi qu'aux efforts de la lutte en cours pour éradiquer le terrorisme. La coordination de la composante des autres partis politiques demande au président de la transition la tenue d'une autre rencontre avec véritablement l'ensemble de la classe politique.
Le pape François a appelé dimanche à la fin des combats au Soudan ainsi qu'à la reprise des pourparlers, un appel qui fait suite au déclenchement des combats entre l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah Bourhan et le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide dirigé par le général Mohamed Hamdan Daglo depuis le 15 avril dernier. Des combats qui ont fait plus de 420 morts et 3700 blessés selon les estimations de l'OMS. Communiqué samedi, plusieurs pays ont entamé des opérations de rapatriement de leurs ressortissants du Soudan, à l'instar de l'Arabie Saoudite, de l'Allemagne et de la France. Omega Sport. Coupe du Faso, l'EFO s'est qualifié pour la finale après sa victoire au tir au but face à l'Est Douane 3-2. Le week-end dernier, l'EFO avait déjà battu l'Est Douane en championnat 2-1. L'EFO affrontera Salitas FC en finale de la Coupe du Faso. Et le seul représentant de la région du centre-ouest dans l'élite du championnat national de football se porte mal. L'équipe ne s'entraîne plus et peine à terminer la saison. À l'origine des problèmes financiers et pas que, jeudi dernier, Sabuna Ouedraogo a rencontré quelques acteurs pour vous. Suivez son reportage.
Le club jaune et noir est en train de perdre la noblesse de ses couleurs en cette saison 2022-2023 dans un gigantesque tourbillon qui laissera des séquelles. Pourtant, en début de saison, cette équipe alignait les victoires et était crainte par ses adversaires. Bourema Kabore, entraîneur de la SEC.
Financièrement, ça ne suffit plus. Et puis, il n'y a pas de dialogue entre dirigeants et joueurs, entre dirigeants et encadreurs. Voilà, c'est ce qui a compliqué notre situation ici. Voilà. Sinon, on était bien parti pour quand même être terminé dans les 5 premiers. Mais malheureusement, ça n'a pas suivi. Bon, c'est vrai que financièrement, ça ne suit pas, mais ce n'est pas seulement au niveau de la SEC. Même si ça ne suit pas financièrement, mais au minimum, il faut un certain nombre de dialogues.
Ce dialogue, il le faut, puisque la famille jaune-noir est malade. L'équipe a déjà boycotté un match du championnat. Et depuis 3 semaines, les joueurs bourrent les entraînements et jouent les matchs sans aucune répétition. Anissé Tangana, capitaine de la SEC de Kudougou.
Puis on ne peut pas jouer les matchs sans entraînement. C'est une situation vraiment un peu embarrassante parce qu'on se sent délaissé.
La cause de cette situation, un retard de paiement des salaires des joueurs qui n'est pas pour autant dramatique comparé à certaines équipes. Aux yeux de certains avertis du football à Kudougou, ce qui arrive à la SEC est une retombée de la guéguerre entre l'actuel et l'ancien président de la Fédération burkinabé de football, puisque chacun avait son camp à Kudougou. Et certains en profitent pour instrumentaliser les joueurs en tirant la SEC vers le bas. Fulgence Nana, président de la SEC de Kudougou.
La fédération a coupé près de 1 200 000. Sur la subvention, la deuxième tranche de la subvention, parce que la Ligue régionale du centre-ouest, il a présenté un autre visage de la SEC à la fédération et la fédération a coupé les 1 200 000 qui vraiment nous a affectés.
Pourtant, tous sont unanimes. Il faut que la SEC demeure en première division. À cet effet, un appel a été lancé pour aider le club à se maintenir dans l'élite.
Ils n'ont qu'à venir aider le club, que c'est le club qui est le plus important. Nous, les joueurs, les dirigeants, on passe, mais le club reste important. Voilà. On aimerait tu vois la suite de Kudougou en première division, parce que vraiment, quand on joue ici là, à Kudougou, il y a beaucoup de supporters qui viennent nous voir au terrain.
Il faudrait que nous trouvions le salaire de mars et puis le salaire d'avril, qui n'est pas encore fini.
Ce jeudi, des sages de la famille jaune et noire ont échangé avec les joueurs afin que l'équipe puisse terminer la saison dans la sérénité. Sabuna Ouedraogo, Kudougou Radio Omega.
La revue de presse. Nos éditorialistes du jour s'intéressent à la lutte contre le terrorisme. L'Express du Faso fait la remarque que la communauté musulmane s'est une fois de plus catégoriquement démarqué des groupes terroristes qui endeuillent le pays depuis plus de 8 ans. Quant à la formation militaire pour les nouveaux agents publics, le journal Le Quotidien salue l'initiative du gouvernement. Pour lui, c'est une initiative qui viendra renforcer la lutte contre le terrorisme à l'international. C'est l'attaque contre un camp de mercenaires russes au Mali qui fait la une, la revue de presse avec Valérie Guéry.
Dans sa parution du jour, l'Express du Faso demande au groupe terroriste de déposer les armes. Si c'est au nom de l'islam déposer les armes, martèle ce journal à sa une. Pour le journal Bobolais, après la communauté chrétienne au cours de la Pâque, la communauté musulmane veut la paix, la sécurité et le vivre ensemble. 8 années de guerre pour un pays pauvre comme le nôtre, cela constitue sans aucun doute 8 années de pertes et de retard dans le développement. Que ni les Burkinabés ne peuvent combler en peu de temps, encore moins ces groupes armés terroristes qui ne savent même pas exactement ce qu'ils veulent. Il est donc temps de déposer les armes car ce malheureux conflit n'apporte rien à qui que ce soit. Voilà une initiative salutaire pour le journal Le Quotidien. Il s'agit de la nécessité d'instaurer le service militaire obligatoire pour tout. Titre le journal Le Quotidien à sa une, car en raison de la situation sécuritaire, de telles décisions auraient dû être prises dès les premières offensives terroristes. Cela aurait au moins pu permettre de conserver fonctionnel un certain nombre d'écoles à travers le pays et certainement de réduire aussi bien le nombre de victimes du terrorisme que de combats à la solde des groupes armés, opine ce quotidien burkinabé. À l'international, l'attaque de l'aéroport et du camp russe de Sévaré intéresse nos éditorialistes. Bravo aux soldats sénégalais de l'ONU pour leur riposte. Félicite aujourd'hui au Faso. Attaque contre un camp de mercenaires russes au Mali. Si la témérité avait un nom, écrit le journal Le Pays. Le journal Le Pays qui se demande où va le Mali. Car voilà bientôt 3 ans que les militaires sont arrivés au pouvoir suite au coup de force perpétré contre le pouvoir de feu Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka au motif qu'ils veulent reconquérir l'intégrité territoriale du Mali, mais qui aujourd'hui donne l'impression d'être dépassé par les événements. Tant et si bien que les Maliens totalement désabusés ne savent plus à quel saint se vouer, car les années se suivent et se ressemblent, ne laissant aucunement poindre à l'horizon une lueur d'espoir, commente le journal des 1200 logements. Que dire de cette double attaque en question? Les djihadistes veulent-ils coûte que coûte prendre ce principal point d'accès aérien de la zone? Se questionne notre confrère d'aujourd'hui au Faso. En 2013 déjà, c'est précisément à Sévaré que Serval avait stoppé la marche des djihadistes sur Bamako. Désir de revanche une décennie après, s'interroge aujourd'hui au Faso.
L'invité de la rédaction.
L'invité du jour est l'imam Boubacar Nassouri, formateur en sciences islamiques. Il est question avec lui du rôle des leaders religieux, notamment musulmans, dans la promotion du vivre ensemble au Burkina. Selon lui, ces leaders doivent tenir un discours religieux juste, objectif, qui ne stigmatise pas les autres. Il est interrogé par Abdoul Fattah Tiemtouri.
Imam Boubacar Nassouri, bonjour.
Bonjour.
Alors, à votre avis, comment se porte la société burkinabé du point de vue de sa cohésion nationale?
C'est vrai que depuis longtemps, le Burkina Faso était reconnu dans la sous-région et même sur le plan mondial comme un pays où il faisait un très bon vivre, où toutes les couches ethniques, culturelles et religieuses vivaient en symbiose, en harmonie malgré leurs différences. Mais depuis un certain temps, force est de constater effectivement que ce n'est plus le cas. Cela a été exacerbé et même exaspéré effectivement avec l'avènement de l'extrémisme violent et du terrorisme. Donc franchement, aujourd'hui, parler de l'état des lieux, de vivre ensemble et de la cohésion sociale, c'est vraiment dire que ça ne va pas quoi, ça ne va pas vraiment.
Et c'est une situation dans laquelle on ne manque pas de pointer du doigt parfois les leaders religieux et coutumiers qui ne s'impliqueraient pas suffisamment du point de vue de certains, ou en tout cas ne donneraient pas suffisamment de la voix pour amener les autres à de meilleurs sentiments. Quelle est votre lecture là-dessus?
Je pense qu'à ce niveau, il y a un travail qui est fait, même si ce n'est pas suffisant. Tous les savants musulmans sont unanimes pour dire effectivement que la stabilité, la sérénité, la quiétude et la sécurité dans un pays font partie effectivement des conditions sine qua non pour que ce pays-là puisse se développer sur le plan socio-économique. Donc nous trouvons effectivement beaucoup de textes, que ce soit dans le noble Coran, que ce soit dans la tradition du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous incitent effectivement à la préservation de la paix et de la stabilité. Donc les musulmans en sont conscients, ils en parlent, que ce soit dans leur lieu de culte, que ce soit dans les conférences et autres, mais peut-être que ce n'est pas suffisant ou bien peut-être qu'ils ne se font pas médiatiser. Mais ce qui est sûr, il y a un travail qui est fait et je pense qu'ils vont toujours redoubler d'efforts dans ce sens-là parce que le travail, il y a du travail quand même qui reste à être fait, Inch'Allah.
Justement, c'est quoi le rôle particulièrement des personnes ressources hein, de façon générale, les leaders religieux, coutumiers également, mais particulièrement des imams, guides religieux et autres érudits de l'islam dans cette situation où on parle aussi de construction du contre-discours pour faire face donc au discours extrémiste?
La première des choses, c'est vraiment de tenir un discours religieux qui est juste, qui est objectif, qui n'incrimine pas les autres, qui ne stigmatise pas les autres. Donc un discours, tout d'abord, qui va effectivement éviter toute stigmatisation malvenue des citoyens et aussi un discours qui sera effectivement en conformité avec la législation islamique. Donc il faut dire clairement que le message qui est apporté par la religion de l'islam est un message de paix parce que l'islam, finalement, d'un point de vue étymologique, même veut dire la paix. Donc les leaders musulmans doivent vraiment mettre l'accent sur ça et dire clairement effectivement que les terroristes, ce qu'ils avancent comme en fait allégations ne tiennent pas du tout.
Et déjà vous avez l'impression que ce message l'apporte en tout cas dans une certaine mesure?
Oui, dans une certaine mesure ce message l'apporte. Voilà, le fait de dire effectivement que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme, l'islam n'a rien à voir avec le crime, et je suis sûr que même parmi ceux qui nous attaquent, il y a des gens en tout cas qui sont en passe effectivement pour dire que le message là pourrait contribuer effectivement à les toucher le cœur quoi, Inch'Allah.
Malheureusement, on ne peut pas en dire autant pour la question ethnique qui reste quand même centrale aujourd'hui. Est-ce que les érudits de l'islam pourraient aussi, au-delà de ces messages de paix de l'islam, aller sur ce terrain que beaucoup trouvent glissant mais qu'il faut aussi aborder?
Ça aussi c'est une réalité. On a vu effectivement ici au Burkina Faso des gens qui ont avancé ces allégations là pour effectivement stigmatiser et écarter d'autres, alors que tout ça effectivement ça ne profite pas au pays, parce que nous avons besoin effectivement de toutes les filles et de tous les fils du Burkina Faso, peu importe leur profil, en fonction de leur bord religieux, de leur bord politique, de leur bord professionnel, et cette question ethnique là en fait vraiment partie.
Une question peut-être un peu plus politique, c'est est-ce qu'il faut opposer à la crise qu'on vit actuellement une solution exclusivement militaire?
Le tout militaire, c'est vrai que c'est quelque chose qui est certes très important, mais et quant à dire effectivement que le tout militaire uniquement peut effectivement nous aider à gagner cette guerre, bon, moi je suis vraiment perplexe et réservé par rapport à cela. Voici pourquoi j'encourage effectivement à intégrer en tout cas d'autres aspects, que ce soit des échanges ou autres, parce que même au premier temps de l'islam, il y a eu effectivement des échauffourées, des situations qui ont opposé effectivement les musulmans et aux non-musulmans. Et à chaque fois, il y a eu des dialogues. Et donc, il faut effectivement ajouter cela.
Est-ce qu'on peut imaginer des scénarios comme ce qu'on a vu à une certaine époque en Mauritanie, par exemple, où des chefs de groupes armés discutent de la doctrine islamique avec, par exemple, des érudits de l'islam pour les amener à changer de position?
Et à un certain moment, il faut vraiment ajouter effectivement, identifier certains leaders religieux qui sont vraiment enracinés dans la science pour effectivement échanger avec ces gens-là pour essayer effectivement de les ramener à la raison. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire et c'est même très important.
Vous écoutiez l'imam Boubacar Nassouri, formateur en sciences islamiques. Il répondait aux questions d'Abdoul Fattah Tiemtori. Ainsi s'achève ce journal réalisé par Fidèle Compaoré à la retransmission Facebook Yaya Dumondé. Excellent après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.